Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
On est rendu au message 4 de Galates. Aujourd'hui, on va couvrir les versets 1 à 10 du chapitre 2 de Galates. Dans le dernier message, on a vu que Paul a voulu parler aux Galates en leur disant « J'ai pas reçu mon évangile à Jérusalem. J'ai pas reçu mon évangile d'un homme. Il l'a reçu dans le désert de l'Arabie où il a été pendant 3 ans formé par le Seigneur lui-même ressuscité. Donc, Jésus lui apparaissait. On ne sait pas s'il lui apparaissait, mais c'est Jésus-Christ qui lui a donné la révélation de l'Évangile. Paul a écrit quand même 19 écrits sur 27 dans le Nouveau Testament. C'est un écrivain prolifique dans le Nouveau Testament. Et c'est à lui qu'on doit la distinction entre être un Juif puis faire partie de l'Église. C'est à lui qu'a été donné ce mystère-là qu'on appelait le mystère de l'Église. C'est qu'avant, Dieu, quand il passait par un peuple pour atteindre les autres peuples, il passait par le peuple juif. Mais il envoyait son fils par le peuple juif, tellement il passait par le peuple juif pour atteindre les autres peuples. Maintenant, Dieu, quand il veut passer son message au travers le monde, c'est par son Église qu'il passe. Et là, il y a un gros, gros changement qui s'est fait, mais l'Église ne suivait pas au début. Elle a pas embarqué. C'est comme s'ils n'ont pas tout à fait catché cette partie-là, puis Paul est venu, puis il a dit, hey, c'est important. Il y avait le judaïsme, maintenant, il y a l'Église. Okay? Et il ne faut pas devenir juif pour faire partie du peuple de Dieu, il faut devenir chrétien dans l'Église. Et Paul est venu, puis grâce à Paul, bien, ça a sauvé un petit peu la jeune Église qui partait un petit peu dans... sur le côté du judaïsme encore, si on peut dire. Alors, dans mon dernier message, on a vu dans le chapitre 1 que Paul voulait démontrer, non, je n'ai pas reçu mon évangile à Jérusalem, je l'ai reçu du Seigneur. Aujourd'hui, dans ce qu'on va lire, on va voir que Paul, il veut montrer que son évangile, il est indépendant, pas différent, mais indépendant de l'évangile des apôtres. On va voir pourquoi c'est important ça. Il y avait des gens qui se promenaient dans les églises où Paul avait commencé à évangéliser puis que les gens étaient devenus des chrétiens. Il y avait des gens qui venaient en arrière puis disaient, « Paul, il s'est fait chicaner à Jérusalem. Ils l'ont rappelé à Jérusalem parce qu'il n'enseignait pas le bon évangile. » C'est un petit peu ça l'attaque des judaïseurs. Okay? Et on voudrait faire croire qu'il a été convoqué 14 ans après qu'il ait été sauvé ou à peu près 17 ans, 14 puis 17 ans après avoir été sauvé, qu'il y avait un problème avec sa doctrine, puis à Jérusalem, ils ont dit, reviens ici, on va te refaire un peu, on va comme te remettre droit un peu. Et Paul, c'est pour ça qu'il écrit le chapitre 2 de Galates. Il a écouté la conclusion des versets d'aujourd'hui. On va le lire à l'écran. OK. Donc, ça, c'est le verset 7. « Voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, » ça, c'est dans le fond les non-juifs, « comme Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens, et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas, qui est Pierre, et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin qu'on aille vers les païens et eux vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. » Donc, ce qui sort de cette visite-là à Jérusalem, ce n'est pas Paul qui s'est fait corriger, qui on a dit, « Hey, tu n'enseignes pas les bonnes affaires, viens, on va te remettre droit. » Mais il dit, il n'y avait rien, ils ont vu la grâce qui m'avait été accordée, puis ils ne m'ont pas rien imposé, puis ils m'ont donné même une main d'association, puis ils ont dit, OK, parfait, toi, tu vas aller vers les non-juifs, puis nous autres, on va aller plus vers les juifs. C'est ce que vous voyez par incirconcis là, ou païen, là, c'est la même affaire que les gens qui étaient non-juifs. Et cette histoire-là est reflétée dans Acte 11. OK? Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner juste un petit peu un arrière-plan de Acte 11 pour que vous puissiez voir un peu dans l'histoire où on se trouve. En Acte 8, Étienne se fait lapider à Jérusalem. Puis là, il commence à avoir une persécution qui commence à grandir contre les chrétiens. Fait que là, les chrétiens ne trouvent pas ça safe de rester à Jérusalem. Fait que ils vont commencer à se disperser partout. Pendant la grande persécution, au début ou pendant, en tout cas, de Jérusalem, Paul va prendre des lettres du souverain sacrificateur pour aller persécuter des chrétiens qui sont à Damas. Et sur le chemin à Damas, dans Acte 8, quand il y a eu le martyr d'Étienne, il a reçu les vêtements ensanglantés d'Étienne, puis il a approuvé le meurtre d'Étienne. Lui-même se convertit en acte 9, donc là on avance dans la lecture du livre des actes, puis on voit Paul qui rencontre le Seigneur, puis le Seigneur qui lui dit « Hey, tu me persécutes ». Et puis il va se tourner vers le Seigneur, puis de ennemi des chrétiens, il va devenir l'apôtre des chrétiens. Tu sais. Puis il va commencer, dans les jours qui vont suivre, il va commencer à prêcher l'Évangile à Damas. Ensuite de ça, ben c'est ça, les chrétiens, eux autres, se sont dispersés. Là, on arrive dans Acte 10, puis qu'est-ce qu'on lit? On voit Pierre qui tombe en extase sur le toit de sa maison. Il y a une vision, puis Dieu lui montre qu'il n'y a rien d'impur, que les non-juifs ne sont pas impurs, puis que l'Évangile, c'est pour tous les hommes. Puis là, il dit, il y a des gens qui vont venir frapper à ta porte, puis suis-les, ils vont t'amener à quelque part. Puis là, ben, l'histoire nous dit qu'il a été amené par chez Corneille, un homme qui était un centenier, un homme de l'armée, mais qui craignait Dieu. Et il voulait comprendre l'Évangile. Puis là, ben Pierre, je ne serais jamais rentré ici avant. Mais là, vu que j'ai eu une vision, ben Dieu m'a dit de ne pas résister à ça. Fait qu'il est venu annoncer l'Évangile. Puis là, c'est la première fois dans le livre des Actes qu'il y a des non-juifs qui se convertissent là, en grand nombre. Puis c'est nouveau pour Pierre, là, tu sais. Puis... Pendant les 10 à 12 prochaines années, on ne va pas entendre parler de Paul. Donc, il y a une bonne 10, 12 années où on n'entend pas parler de Paul, mais Paul, lui, il s'en va, puis partout, il prêche. Il prêche dans les contrées où il y a beaucoup de Grecs, des gens qui ne sont pas nécessairement juifs. Puis, il continue à faire son ministère. Puis, on arrive au chapitre 11. Et là, je vais vous lire, si vous êtes là, ça va être à partir du verset 18. Je vais le laisser. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, ici. Ça, c'est où ce que Mirella est présentement, au Liban. Ils se rendent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, ici. Et à Antioche, qui est ici, Antioche en Syrie. Et ils annoncent la parole seulement aux Juifs. Il y a cependant parmi eux quelques hommes de Chypre, qui étaient venus d'Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus, et la main du Seigneur était avec eux. Et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem. Donc, il y a des non-juifs ici qui se convertissent. Fait que là, ils vont dire, Barnabas, va à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse. OK. Je vais le dire après. Se rendit à Tarse pour aller chercher Paul et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Et pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Et ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Donc, les chrétiens sont dispersés à cause que ici, là, ça brasse beaucoup. Fait que là, ils sont dispersés un peu partout. Et les chrétiens annoncent principalement, ils retrouvent des Juifs, puis c'est aux Juifs, comme si le salut appartenait à la nation juive, au peuple juif. Ils annoncent donc, hey, le Seigneur est venu pour les Juifs, par les Juifs, on va aller voir les autres Juifs. T'sais. Fait que l'Église était composée principalement que de Juifs dans les premières 10 années, là, à peu près. Il n'y avait pas de non-Juifs dans l'Église, ou presque pas. Et donc, il y a un réveil à Antioche. C'est des non-juifs qui sont là. Et donc, Barnabas est envoyé de Jérusalem pour aller inspecter qu'est-ce qui se passe là-bas. Il voit que la grâce de Dieu est répandue aussi sur les non-juifs. Et il va chercher Paul à Tarse ici. Puis il dit, hey, viens-t'en, il y a quelque chose à faire ici. Il y a quelque chose qui, puis ça va devenir un lieu d'enseignement pendant une année de temps où ce qu'ils vont enseigner, là, à chaque semaine, ils vont enseigner beaucoup la parole de Dieu. Et là, l'histoire se trouve à peu près à cet endroit-là, dans Galates 2, quand il dit 14 ans plus tard. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a des prophètes qui viennent de Jérusalem, puis ils arrivent à Antioche, puis ils disent qu'il va arriver que, bon, il y a un des prophètes qui s'appelle Agabus, se lève et annonce par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient dans la Judée. Ils les firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et Saul. Donc Saul, c'est le nom de Paul avant sa conversion. Donc c'est la même personne. Okay. Donc Saul et Barnabas sont envoyés pas nécessairement à Jérusalem, mais dans la Judée pour distribuer de l'argent pour les pauvres, pour que les frères qui manquent à cause de la famine qui est survenue sur la terre, là, puissent les aider avec ça. Et donc, c'est sa deuxième visite à Jérusalem. La première, c'est il avait accepté le Seigneur ici, puis il était remonté à Tarse, puis il était redescendu à Damas, puis 3 ans après, il était descendu à Jérusalem pour la première fois. Là, c'est sa deuxième fois qu'il y va, puis on est 14 ans plus tard qu'il a accepté le Seigneur. Donc, c'est passé la persécution, il s'est passé le réveil à Antioche, les prophètes sont venus, ils ont dit une famine, il a descendu, mais il n'est pas nécessairement allé à Jérusalem. Puis là, le texte, c'est là que ça se passe. Galates, chapitre 2, versets 1 et 2. 14 ans après. On ne sait pas ici si c'est 14 ans après sa conversion ou 14 ans après sa première visite. Si c'est 14 ans après sa première visite, ça voudrait dire que c'est 17 ans après sa conversion. On ne le sait pas. Je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas. Pourquoi? Parce qu'il y avait une famine, puis il avait été envoyé pour envoyer des dons. Mais il dit qu'il a pris Tite avec lui et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Celle d'Agabus? On ne le sait pas. Par contre, aller à Jérusalem, probablement que le Seigneur lui a parlé là, directement, puis il a dit, il faut que tu ailles voir les apôtres. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou ne pas avoir couru en vain. Pourquoi est-ce que Paul y monte à Jérusalem? Bien, depuis 14 ans, lui, il prêche aux non-juifs, puis depuis le même temps, les chrétiens, ils évangélisent juste les Juifs. Fait que là, il y a comme quelque chose qui est en train de se passer là. Paul sait qu'à quelque part, il y a une contradiction entre lui puis les autres chrétiens. Hein? Et donc, il y a un christianisme qui a peut-être un peu des œillères là. Tu sais, un genre de christianisme de le salut est par les Juifs puis pour les Juifs. Tu sais, notre Sauveur, c'est un Messie juif. Il est venu sauver le peuple juif. Tu sais. Puis lui, il a peut-être les œillères un peu plus ouvertes, puis de voir, non, Christ, il est venu mourir pour tous les hommes, et donc tous les hommes ont accès à la vie éternelle. Et donc, il sait à quelque part que s'il s'en va à Jérusalem, ça pourrait peut-être brasser. Il parcourt les villes de Judée avec Barnabas parce qu'ils vont donner des dons aux pauvres, mais il y a une révélation, celle d'aller à Jérusalem. On ne sait pas si le Seigneur lui a apparu personnellement, ou lui a dit personnellement d'y aller, ou par l'entremise d'un prophète comme Agabus, c'est pas vraiment important. Mais rendu à ce temps-là, 3 ans au désert, où ce qui a été enseigné par le Seigneur lui-même, 14 ans de prédication, fait de lui quelqu'un qui est mûr pour son message, il est clair. Paul, son évangile est clair. Il va l'appeler son évangile, l'évangile que le Seigneur lui a donné. Et donc, il est prêt à être montré aux apôtres. Il y a donc une révélation qui doit aller à Jérusalem, et cette révélation-là lui donne le courage d'y aller. Et c'est quoi son évangile-là? C'est quoi l'évangile de Paul, excuse-moi? Son évangile, c'est que Dieu réconcilie les Juifs et les non-Juifs ensemble dans l'Église. Que maintenant, ceux qui avaient construit le judaïsme ont vu une pierre précieuse, c'est Christ, ils l'ont rejetée, puis ont dit « on n'a pas besoin de ça ». Et Dieu a pris la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, puis il a pris cette pierre précieuse-là, puis il a construit un nouvel édifice, on pourrait parler d'édifice, puis c'est l'Église. Alors le message de Paul, l'évangile de Paul, il dit dans Colossiens 3, c'est pas Colossiens 3, dans Éphésiens 3, que c'est un mystère caché de tous les temps qui lui a été révélé, puis que là, il annonce. Donc, c'est quoi? C'est que tu n'as pas besoin de te faire juif pour faire partie du peuple de Dieu. Tu as juste besoin de comprendre ce qui s'est passé à la croix, puis d'accepter qui Jésus est et ce qu'il a fait pour toi, et tu vas en faire partie de l'Église. Que tu sois non-juif, que tu sois juif, ça n'a pas d'importance. Et donc, il amène ça. Il amène ça devant les apôtres, puis le mot pour « je leur exposer », c'est que je leur déclarais, que je fis une référence, que je mis devant afin qu'ils examinent. Il l'a mis devant leurs yeux pour qu'ils examinent cet évangile-là. Hein? Et donc, la rencontre qu'il a eue avec eux, c'est des rencontres qui sont en particulier. Dans l'original, ça nous dit en privé. Donc, il est allé voir les plus considérés devant Dieu. Que tu sois premier ministre, président ou laveur de toilettes, tout le monde en a la même valeur devant Dieu. Et c'est pour ça qu'il va dire, c'est pas que Dieu fait du favoritisme. Il dit, je ne peux pas aller les voir parce qu'ils sont plus, ils ont plus de valeur devant Dieu, mais ils sont plus considérés parmi les hommes. Donc les apôtres qui étaient à Jérusalem, je veux dire, les gens disaient, qu'est-ce que les apôtres disent? C'est quoi que les apôtres disent? C'est normal, ils étaient comme en position d'autorité. Donc, par rapport aux hommes, ils étaient plus considérés, mais le verset d'après, il va dire, c'est pas qu'il y en a qui ont plus de faveur que d'autres aux yeux de Dieu. Et qu'est-ce qui est en jeu ici? C'est que si ça continue comme ça, si Paul continue à prêcher aux non-juifs, bon, je les ai mis ici tantôt, les non-juifs de ce côté-là, mettons, puis que les chrétiens évangélisent juste les juifs, il va arriver un split à un moment donné. Il va arriver un genre de scission. Et le split qui arriverait dans l'Église, ça, Paul il dit, je ne veux pas avoir couru en vain. Je veux dire, je suis allé en Galatie, je suis allé en Asie, je suis allé un peu partout. Ça fait 14 ans que je prêche, puis je ne voudrais pas qu'il y ait un split dans l'Église, puis que là, les gens s'en partent chacun de leur bord. Là, tu sais. Fait que ce qui est en jeu ici, c'est qu'il pourrait avoir une division dans l'Église et il risque d'avoir couru en vain pendant 14 ans, avoir conduit des gens à Christ et les voir être emportés dans une division, et ça, il ne veut pas voir ça. Ce n'est pas pour sa réputation ici. Il ne va pas les voir pour sa réputation. Il vient de dire au chapitre 1, il dit, « Si je voudrais plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Ce n'est pas vraiment pour sa réputation, mais pour les conséquences que ça leur aide de ne pas le faire. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se tenir pour ceux pour qui il a couru, puis il va espérer qu'eux autres ils vont garder le message de la grâce. On va développer ça un petit peu plus dans mon message. Dans 1 Corinthiens 9, Paul est dit, « Moi, je cours. » Et là, ici, c'est intéressant, le mot « courir » ici, Paul il l'utilise à toutes sortes de choses dans le Nouveau Testament. Il présente la vie chrétienne comme une course dans laquelle chacun d'entre nous, nous sommes. Il dit, « Je cours, mais pas à l'aventure. Je frappe, mais pas battant l'air. Je traite durement mon corps, je le tiens assujetti de peur que moi-même, d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » 1 Corinthiens 9, 25. Paul, son but, le but de sa course, c'était quoi? Il voulait voir le royaume de Dieu dans l'église locale, dans les églises. Il voulait voir les gens remplir le royaume de Dieu au travers de l'église. C'est ça, son but, c'était ça. Il dit, je veux garder le message de la grâce, parce que si je ne garde pas le message de la grâce de Dieu, je vais avoir couru en vain. puis je vais être disqualifié. Pourquoi? Hey, avant, tu nous disais que c'était par grâce qu'on était sauvés, puis à cette heure, tu nous dis que c'est par la loi qu'on est sauvé, par l'observance de la loi. Fait qu'il serait rejeté après avoir prêché aux autres. Donc, Paul, il va voir les leaders, puis c'est paisiblement qu'il va voir les gens les plus considérés qui sont Pierre, Jacques et Jean, qui sont nommés dans le texte. Il va, comme quelqu'un qui cherche la paix, qui veut garder l'unité pour que, justement, l'Église reste unie. Regardez bien le texte ici dit, « afin de ne pas courir ou avoir couru en vain ». C'est quoi le temps du verbe? Il y a le passé puis il y a le présent. « Avoir couru » et « en train de courir ». Paul, ça fait 14 ans qu'il est chrétien ou 17 ans qu'il est chrétien puis il court encore. Puis ça, on a vraiment besoin de comprendre dans le message aujourd'hui que la vraie vie chrétienne, ce n'est pas quelque chose qui doit aller en diminuant. Tu sais qu'avant, comme dans une relation de couple, on faisait tout pour l'être aimé, puis à un moment donné, on se prend pour acquis. Hein? Mais je pense que c'est la même affaire dans le Seigneur. C'est qu'à un moment donné, on a un feu pour Dieu au début, puis on courait bien au début, puis à un moment donné, la routine est embarquée. Bien, je veux qu'on comprenne que bien, dans un couple, la romance, ça s'entretient. Puis dans la marche chrétienne, la course aussi, ça s'entretient, ça. Tu sais, des fois, il y a des gens qui... j'en reparlerai plus tard. Mais, tu sais, il y a des gens, par exemple, qu'il y a été un temps pour eux que l'Église, c'était important. Puis là, leurs amis disent, « Crème, tu te lèves à cette heure le dimanche, tu restais toujours couché avec, qu'est-ce qui se passe? » Eh bien, j'ai rencontré le Seigneur, puis pour moi, c'est important de le servir, puis regarde, c'est rien, ça, se lever le matin. Puis là, la personne, après ça, qu'est-ce qui arrive? Elle ne va plus dans une église. Puis là, la personne la regarde, puis elle dit, « Crème, pourquoi j'irais, moi, dans une église, tu sais? » Avant, tu voulais tout bouger pour cette église-là, puis là, à cette heure, tu restes couché le dimanche matin. Pourquoi moi, j'irais? Donc, c'est ça que Paul dit. Il dit, avant, il dit, je cours, puis il dit, je ne veux pas un jour arriver à un endroit où je vais être rejeté par les autres. Donc, je ne veux pas perdre mon témoignage. Hein? Tu m'avais dit que l'Église était importante, et voilà, vous avez des divisions entre vous, vous vous mordez les uns les autres. Il y a plus d'unité dans mon club de bingo que dans ton Église. Donc, après avoir prêché aux autres, d'être disqualifié, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y a des chrétiens, moi, comme les autres, on s'est ralenti dans notre course, puis on a perdu le but. Puis là, à un moment donné, on est devenu, on a perdu la vision, tu sais. Le temps du verbe ici, c'est courir. Paul, ça fait 17 ans qu'il est chrétien, il court encore. Hein? Il court encore, puis il n'a pas changé de message, OK? Dans 1 Corinthiens 15:10, il dit qu'il a fait plus que tous les apôtres, non pas lui, mais la grâce de Dieu qui agissait en lui. Paul avait une relation avec Dieu par la grâce de Dieu. Des fois, tu entends ça, un vieux chrétien qui voit un nouveau chrétien tout feu, tout flamme, tu sais, puis le gars, il veut gagner le monde pour Jésus, tu sais, puis tu entends le vieux chrétien dire, « Attends qu'il se pète les dents. » il est nouveau, hein? C'est nouveau, là, c'est comme tout feu, tout flamme, tu sais. Attends, tu vas voir. Dans 5-7 de Galates, dans le même livre qu'on va étudier un peu plus tard, mais quand même, le verset 7, il dit, « Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. » Donc, il prend le thème de courir, puis il dit, « Je cours, je courais, puis je cours encore, puis je ne veux pas courir pour rien. » Puis, vous avez couru, puis là, vous vous êtes arrêté. Puis ça fait un an à peu près qu'ils ont accepté le Seigneur. Hein? Ça n'a pas été long, hein? Une année. Le contexte, quand même, quand il est allé à Jérusalem, si vous regardez avec moi au verset 3 à 5, le contexte, c'est quand même... il dit, Tite était avec moi, lui, il était grec. Il ne fut même pas contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous. pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leur exigence afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. Bon. Tite, il est avec eux. Tite, c'est un Grec, donc un non-juif. Et les judaïseurs, ces faux docteurs-là, ils les appellent les faux frères, hein, ici, là. À Jérusalem, il y avait des faux frères. Ce n'étaient pas des gens qui étaient vraiment chrétiens, mais c'était des gens qui venaient dans l'Église ici, mais qui disaient qu'il fallait que tu te fasses circoncis et que tu deviennes juif pour pouvoir être sauvé. Fait que, il dit qu'ils sont venus parmi nous, donc ils sont venus parmi nous, ils sont venus épier la liberté qu'on a en Jésus-Christ. C'est quoi la liberté? Tu n'as pas besoin d'obéir à la loi de Moïse pour être accepté par Dieu. Tu as juste besoin d'accepter qui Jésus est et ce qu'il a fait pour toi. Et tu fais partie de l'Église. Puis il dit, on leur a résisté à leur exigence, afin que la vérité ne soit pas qu'elle soit maintenue parmi vous. Donc, il court pour quelque chose, Paul. Il court et son but, le but de sa course, c'est que les gens gardent leur liberté. OK? Ah oui, c'est ça. C'est un peu pour ça qu'il ne voulait pas y aller à Jérusalem, d'après moi. Il sentait qu'il y aurait des confrontations de ce genre-là. Puis, il a amené un Grec avec lui, peut-être un petit peu pour... Fait que finalement, il ne fait pas circoncire parce que les Grecs ou les non-juifs, nous autres, on n'a pas besoin de se faire circoncire pour faire partie du peuple de Dieu, ni obéir à toute la loi. En passant, quand on se faisait circoncire, on s'engageait aussi. Hein? La circoncision, c'était que je sois retranché du peuple de Dieu si je ne fais pas toute la loi. C'est ça le mot, retrancher, là, enlever la peau tout le tour de l'organe masculin. Ça voulait aussi dire que je sois retranché. C'est une alliance qu'on faisait, que je sois retranché du peuple de Dieu si je n'obéis pas à toute la loi de Moïse. C'est ça que ça voulait dire. OK? Et donc, Paul, à un moment donné, il va aller à Jérusalem une autre fois dans Acte 16, au verset 3, avec Timothée, puis il va faire circoncire Timothée. Mais là, il ne fait pas circoncire Tite. Pourquoi? Parce qu'il y avait la circoncision aussi avant Moïse. Donc, avant que Moïse arrive avec la loi, il y avait aussi une alliance inconditionnelle que tous ceux qui étaient fils d'Abraham seraient bénis avec Abraham, mais pour pouvoir avoir les bénédictions qui avaient été faites à Abraham, il fallait être circoncis en Abraham aussi. Donc, un Juif, même s'il est chrétien ici, l'Église, il ne sait pas qu'il veut obéir à toute la loi de Moïse, mais il veut, avant Moïse, il y avait Abraham, et Dieu avait dit qu'Abraham, qu'il y aurait une bénédiction territoriale. C'est ce qui va arriver dans le millénium, d'ailleurs. Il va avoir le peuple de la nation issu d'Abraham vont avoir des bénédictions particulières en Israël. Et donc, le chrétien qui fait partie du peuple de Dieu a le droit à toutes les promesses qui sont faites par Jésus-Christ, dont la vie éternelle et tout ce qui vient avec ça. Mais en plus, il a le droit d'avoir les bénédictions faites à Abraham, de territoire et de tout ce qui va venir dans le paradis terrestre dans le millénium, c'est-à-dire 1000 ans de paradis sur la terre. Donc, Timothée, juif, pas de problème, chut, fait circoncis. Tite, non-juif, ne fait pas circoncis, parce qu'il n'y a pas besoin, il n'y a pas à se soumettre à la loi de Moïse. Fait qu'il n'y a pas flanché, Paul n'y a pas flanché sous la pression des judaïseurs qui voulaient dire, « Hey Paul, tu vas être un trophée d'hypocrisie. Tu sais, si tu peux juste faire circoncire, il faut qu'il fasse circoncire. S'il fait circoncire, on va se promener partout et on va dire, « Hey Paul, qui dit qu'on n'a pas besoin de se faire circoncire ni de suivre la loi de Moïse, ben, il a fait circoncire un Grec hein, qui venait à Jérusalem. Tu » sais. Fait qu'on va se servir de lui comme un trophée d'hypocrisie pour dire, « Ah, quand il est à Jérusalem, il demande aux gens de suivre la loi de Moïse, mais quand il n'est pas à Jérusalem, il dit aux gens qu'ils n'ont pas besoin de suivre la loi. » Donc, c'est un hypocrite. Alors, la suite de notre passage qu'on étudie aujourd'hui, puis après ça, on va regarder qu'est-ce que ça veut dire pour nous autres, tout ça. On en relit le verset 6, puis jusqu'au verset 10. « Quant à ceux qui sont les plus considérés, ce qu'ils étaient autrefois ne m'importe peu. Dieu ne fait pas de favoritisme. Ils ne m'ont rien imposé de plus. » Donc, Timothée, il était là dans le voyage. Pas Timothée, Tite, puis il n'a pas été circoncis non plus. Puis, il dit, j'ai présenté mon évangile à ces gens-là. Ils ont vu c'était quoi que j'enseignais. ils m'ont pas imposé rien. Ils m'ont pas dit non, il faut que les chrétiens suivent la loi de Moïse. Fait qu'on n'a rien imposé. Et là, ils ont vu. Regarde, on continue. Que les apôtres ont vu? Au contraire, ils ont vu que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis comme à Pierre pour les circoncis. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des non-juifs. Et ils ont reconnu la grâce qui m'avait été accordée. Jacques, Céphas et Jean, qui sont considérés comme des piliers, nous ont alors donné la main d'association à Barnabas et à moi, afin que nous allions, nous, vers les non-juifs et eux, vers les circoncis. Et ils nous ont seulement recommandé de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire. Donc, ils ont vu Paul, ils ont vu son évangile, ils ont vu qu'il était venu pour aider les frères pauvres en Judée. Ils ont continué à faire ton bon travail que tu faisais au niveau des pauvres. Puis, on va faire comme ça. Puis, il dit, ils se sont donné la main d'association. Ah, c'est vraiment intéressant tout ça. Maintenant, en quoi est-ce que ça nous aide de comprendre ce contexte-là? Aujourd'hui, j'ai passé la journée d'hier juste pour essayer de comprendre les venues de Paul et Paul à Jérusalem. Première fois, deuxième fois, il est allé 5 fois à Jérusalem. J'essaie de comprendre, d'essayer de faire des belles connexions avec la livre des Actes. Maintenant, aujourd'hui, en quoi est-ce que ce qui se passe là, nous, on n'a pas des judaïseurs qui viennent dans nos églises pour dire « Hey, il faut que vous suiviez la loi, il faut que vous fassiez circoncire, tu sais. » Mais en quoi est-ce que ce qu'on a compris aujourd'hui va s'adresser à nous? C'est quoi la signification? J'ai sorti 3 choses importantes qu'on voit dans ce texte-là. Premièrement, ce que vous croyez est sous attaque. OK? La grâce de Dieu, si vous y avez cru, si vous la comprenez, c'est la chose la plus détestable pour le diable et les démons. Pourquoi? Dans Apocalypse 12:10, c'est écrit que le diable est l'accusateur des croyants. Jour et nuit, il accuse les croyants. Satan est présenté comme l'accusateur des croyants jour et nuit. Dans Daniel 7, verset 25, en personnifiant son enfant, donc lui, l'antéchrist qui va jaillir dans la période de la grande tribulation, ça va être un homme qui va être l'homme du péché, qu'on appelle aussi l'antéchrist, qui est, on pourrait dire, le fils du diable. Il personnifie un peu le diable, si on peut dire. Comme Dieu a envoyé son fils sur la terre, le diable va faire un miracle similaire. Et en parlant de lui, dans Daniel 7, 25, c'est écrit, « Il proférera des mensonges au sujet de Dieu et il opprimera les croyants. » Donc, l'antéchrist, quand il va être sur la terre, son rôle à lui, ça va être d'user, d'opprimer les croyants. Mais dans le caractère de Satan, il y a cette idée-là aussi de nous mentir concernant Dieu, concernant ce qu'il pense de nous, et de nous user ou de nous accabler. Comment est-ce qu'il fait ça? Bien, on regarde que la lutte entre le diable et l'humanité ne date pas depuis que Jésus-Christ est venu sur la terre. Elle date de bien avant ça. Hein? La lutte date de bien avant, mais la lutte de Satan contre les hommes et surtout les croyants, elle s'amplifie de beaucoup lorsque Christ vient sur la terre. Pourquoi? Parce que ça faisait son affaire que depuis la création, à cause d'un homme, tous les hommes ont été déclarés pécheurs. Donc lui, il vient donner une jambette au premier, puis tous les autres prennent une débarque. Il mord le talon du Seigneur en faisant ça. Il mord le talon. Tu sais, il est comme s'il était un serpent, il mord le talon. Si on pourrait dire, il blesse parce qu'il se dit, « Il n'y a pas juste moi qui est dans la rébellion, toute l'humanité entière est dans la rébellion. » Fait qu'il amène l'humanité entière, si on peut dire, dans la rébellion. Et il y a un terrain d'accusation. Maintenant, il peut se tenir devant Dieu qui est juste et saint, puis dire, « Hey, ta création n'est pas digne de toi. » Alors, il peut accuser Dieu au travers de sa création. Et là, il y a du terrain pour accuser. OK? Mais, depuis la croix, il perd le terrain dans tous ses pieds pour accuser, parce que par la mort d'un juste, beaucoup seront déclarés justes. Donc là, par le péché de un, tout le monde prend une débarque. Par la mort d'un autre, beaucoup sont déclarés justes. Et là, sous ses pieds est enlevé le terrain d'accusation, puisque qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les justifie. Si le diable vient m'accuser sur mon péché ou mon passé, il n'y a plus de terrain pour m'accuser parce que mon casier judiciaire a été effacé à la croix de Christ. Et c'est passé une transaction. Et là, le diable déteste la grâce de Dieu parce qu'il perd aussi son travail pour t'accuser. Donc, il ne peut pas t'enlever ça. Tu as été placé, quand tu as accepté le Seigneur, tu as été placé dans une position de juste par les mérites d'un autre. Tu as été déclaré juste par le juge de l'univers qui a enlevé ton casier judiciaire puis qui l'a pris sur lui. Puis quand tu as cru, ça a été mis à ton compte. Tu as été déclaré juste à ce moment-là. Puis le diable dit, qu'est-ce que tu veux que je dise? Il ne peut même plus nous accuser en cour de justice parce qu'on a été lavé. Et ça, c'est la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. On est dans une juste position par rapport à Dieu, dans les mérites de Jésus-Christ. Et dans Romains 5, 33, c'est écrit, « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. » Ça, ça ne peut pas être changé. Si tu as accepté le Seigneur Jésus, tu as accepté ce qu'il a fait pour toi, qui il est et ce qu'il a fait pour toi, ça ne peut pas être changé. Par contre, ce qui peut être changé, c'est ta vision. C'est la vision que tu as de toi par rapport à ta position devant Dieu. Et c'est exactement là que le malin va attaquer. Puisqu'il ne peut pas attaquer le pardon que tu as reçu, puisqu'il ne peut pas faire de toi quelqu'un qui n'appartient pas à Dieu, tu vas pour toujours faire partie de la famille de Dieu parce que tu as accepté le Seigneur. Et si ça ne peut pas changer, une chose peut être changée, c'est ta vision. Et le malin, alors, ce qu'il va faire, c'est qu'il va te faire croire que tu n'as pas cette justice-là. Hein? Et donc, il va essayer de te refaire voir toi-même dans une justice qui est la tienne. Okay? Et il va essayer de t'amener à un endroit où tu ne te vois pas au travers ce qui a été fait pour toi, mais tu te vois juste dans tes performances, dans qu'est-ce que tu es. T'sais? Et donc, là, on va commencer à laisser les accusations du malin, celui qui accuse les croyants jour et nuit. On va le laisser nous dire qu'on n'est pas à la hauteur pour Dieu, qu'on n'est pas digne de lui. Et là, on va se mettre sur des programmes pour bien faire. Et si on a mal fait, on va essayer de mieux faire. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'il se passe quelque chose entre avoir mal fait et mieux faire. Et ce n'est pas une mauvaise conscience qui doit être le sens. C'est-à-dire, j'ai mal fait, OK, j'ai une mauvaise conscience, OK, je vais faire mieux. Non, l'Évangile, c'est la croix qu'elle place au centre. OK, j'ai mal fait, je confesse, Christ efface mon péché, j'ai le pardon par la croix, et à partir de là, je suis lavé, pardonné pour faire quelque chose pour Dieu. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est pour ça que c'est encore la grâce qui nous tient devant Dieu, toujours dans une juste position devant lui. C'est le pardon. Et donc, c'est pas j'ai mal fait, j'ai mauvaise conscience, OK, vu que j'ai mauvaise conscience, je vais en faire plus. Il y en a plein qui montent les églises, là, des marches d'église avec des genoux ensanglantés. Là. Pourquoi? C'est pénitence. Ils se font pénitence pour leurs péchés. Non, la pénitence pour nos péchés, c'est la croix de Christ. Dans Tite 2, 14, c'est écrit que Dieu s'est racheté à un peuple purifié par lui et zélé pour des bonnes œuvres. Dans Hébreux 9, 14, c'est écrit que si on est purifié par le sang de Christ dans notre conscience, on va pouvoir servir le Dieu vivant. C'est ça le message de la grâce. Il faut qu'on a commencé comme ça, on est venu et on a dit, « Crime, je ne peux pas me sauver moi-même, j'ai besoin d'un sauveur. » On est venu à Christ. « OK, ben, je ne peux pas marcher une vie zélée. Je ne peux pas continuer à courir dans la vie chrétienne à moins que je reçoive le pardon de Christ encore aujourd'hui pour recevoir une bonne conscience, pour être zélé pour lui dans ma course puis continuer à courir dans la course. » Donc, ce que le diable fait, il vient te faire perdre de vue le pardon de tes péchés. Il vient te faire perdre de vue cette grâce-là qu'on a tellement besoin pour pouvoir courir dans la vie chrétienne. Deuxième chose, donc la première, j'ai dit que Satan attaque. Ce que vous croyez est sous attaque. Deuxièmement, un autre principe que j'ai vu dans le texte, c'est que la poursuite du bonheur, là, tu sais, « pursuit of happiness », c'était un début de la vie, là, c'est la poursuite du bonheur. puis le désir d'être approuvé par les autres, c'est un piège. J'entendais à la radio cette semaine que c'est rendu qu'il y a une application que tu donnes la bague de fiançailles à l'autre, puis quand tu rouvres, il y a une caméra cachée, tu sais. Puis ta déclaration de fiançailles est en live, tu sais, c'est Facebook live, tu sais. Puis à la radio, ils disaient, ils ont fait des jokes à propos de ça, tu sais, c'est comme, ils se font une pratique, tu sais, 10 fois, là. Mais à la radio, ils disaient, est-ce qu'ils se fiancent pour l'autre ou ils se fiancent pour eux? Parce que là, ils veulent être vus par leurs amis. Ils veulent être vus. Le monde aujourd'hui a besoin d'être approuvé. Ils ont besoin d'avoir des likes. Ils ont besoin que les gens fassent ça comme ça sur leur vie. Mais ça, c'est un piège. C'est un piège qui, je pense, est encore plus présent avec l'âge du Facebook puis du Twitter qu'il l'était peut-être dans le temps de notre Seigneur ou de l'apôtre Paul. Mais Jésus, il savait, lui, quand il était sur la terre, il savait que perdre l'amour ou l'approbation d'une personne qui était proche à nous, c'était la plus grande difficulté pour devenir un disciple de Jésus-Christ. Jésus disait, si tu aimes ton père, ta mère, ton frère ou ton enfant plus que moi, tu n'es pas digne de moi, dans Matthieu 10, 37. Jésus venait faire un appel, mais Jésus était impopulaire. Jésus était accusé comme étant le prince des démons, pas le prince des démons, mais qui était possédé de Belzébul, du prince des démons, qui avait le nom de Dieu tatoué à l'intérieur de sa peau. En tout cas, que c'était un sorcier. Fait que les gens disaient, si tu suis ce gars-là, je veux dire, gars, on te renie. Fait que là, il y avait cette puissance de la famille qui disait, hey, si tu suis ce faux docteur-là, on va te renier. Fait qu'il y avait comme, hey, si je suis Jésus, je vais perdre mes amis, je vais perdre ma famille. Et donc, de vouloir avoir l'approbation des gens qui sont proches de nous, ça, c'est tout un piège. Hein? Et donc, Paul dit aux Galates, « Si je voudrais plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Le problème, c'est qu'on pense que si on perd l'amour de notre Père, il y en a qui se sont fait dire, « Écoute, si tu vas dans cette religion-là, je n'irai pas à ton mariage, je n'irai jamais à ton église. Tu mettras plus. » Il y en a même qui vont dire, « Tu ne mettras plus les pieds ici. Tu ne parleras pas de Dieu dans ma maison, etc. » À un moment donné, il faut que tu le saches en tabarouette, quand tu te fais dire ça par quelqu'un que tu aimes. Je veux dire, moi, tout jeune, on se bat pour l'amour de nos parents. On veut être aimé par eux autres. Puis si ton père, ta mère t'a dit ça, il y a des pays où ils partent à courir après toi avec un couteau, là. Je veux dire, c'est comme tu n'es pas juste mort dans le testament, tu es mort, là, tu sais. Fait qu'il faut que tu saches en crème pourquoi que tu acceptes le Seigneur, tu sais. Mais Jésus l'a dit. Et puis, à quelque part, le diable, il savait très bien, il disait à propos de Job, hein, tout ce qu'un homme possède, il ne laissera pas aller si facilement que ça. Enlève-y ce qui est à lui, puis il va te maudire en pleine face. Le diable, il sait depuis le début que si on peut avoir quelque chose à nous, on va aimer mieux avoir quelque chose à nous que d'avoir Dieu. Hey, s'ils mangent cet arbre-là, ils vont avoir quelque chose pour eux. Le diable, il a fait ses tests dès le début, puis ça a fonctionné. Fait que, il y a des jeunes hommes, il y a des jeunes filles qui quittent l'Église parce qu'ils trouvent, leurs amis ne les trouvent pas populaires, ne sont pas likés. Tu as un jeune qui va parler à son professeur à l'école, puis le professeur commence à crier après. Tu te dis, il y a une haleine sulfureuse, le prof. C'est pas normal, qu'est-ce qui est en train de se passer. Puis tu as son chum qui est là à côté, puis qui dit, le gars, il fait juste parler normalement de sa foi, il parle de Dieu. Puis l'autre, le prof, il est en colère parce que lui, il croit pas à la vie éternelle, puis il croit pas en Dieu, puis toutes ces affaires-là. Puis lui, c'est un scientifique. T'sais. Puis là, tu as les autres élèves dans la classe qui sont là, je pense toujours devenir chrétien, moi. Fait que ça, comment il se fait crier après, tu sais? Fait que l'amour des gens tend un piège. Quand on veut être aimé par les gens, quand on veut être admiré par les gens, ça nous tend un piège. Et Jésus l'a dit, « Hey, si tu n'es pas digne d'être mon disciple, si tu aimes ça plus que moi, tu sais. » Le piège de l'approbation aussi. Comme je disais, ceux qui se fiancent comme ça avec Facebook Live, là, qui est une nouvelle chose, ceux qui ne connaissent pas ça, c'est que tu peux être en direct, montrer ta vie là, devant les gens. OK, bon. Dieu, quand on vient à lui, il ne nous promet pas un bonheur immédiat, il ne nous promet pas un bonheur tout de suite, mais il nous promet le bonheur éternel. Puis à Jérusalem, c'est la carte qu'on a vue tantôt. Hey, ça, c'était l'amour des gens. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Est-ce que je devrais? C'est-tu correct? Puis mon image. Les gens vont se demander si je suis vraiment heureuse. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ça tend un piège parce qu'on ne suit pas nécessairement le Seigneur quand on essaie de répondre à toutes ces questions-là. À Jérusalem, les gens perdaient leur maison, perdaient leurs biens parce qu'ils devenaient chrétiens. Puis l'auteur des Hébreux, il leur dit, « Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu de souffrances, d'une part exposés comme un spectacle aux opprobes et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. » Donc, parce que tu étais chrétien, on venait de voler ta maison, on venait comme ça se passe encore au Moyen-Orient, là, à certains endroits. Sachant que vous aviez, fait qu'il dit, tu veux ça? Prends-le. Tu veux ça? Prends-le. Avec joie. Au début, vous le faisiez avec joie. Parce que vous saviez que vous aviez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Et encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. Hey, imaginez, là, c'est des gens qui se font enlever leurs biens, ils sont persécutés, puis tu dis, hey, celui qui doit venir ne va pas tarder. La promesse du chrétien, ce n'est pas qu'il va avoir une vie heureuse sur la terre tout le temps, mais celui qui doit venir va venir, puis on va être récompensé. Nous, on est dans une société aujourd'hui, puis de plus en plus, présentement, les jeunes, ils ne veulent plus avoir une maison. Ils ne veulent pas nécessairement avoir des biens. Ils veulent voyager. Ils veulent vivre des expériences. Puis il n'y a rien qui est fait pour préparer leur retraite. T'sais. C'est comme ça, ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est maintenant, c'est ici. Bien, tu sais, cette mentalité-là, si ça touche à ta retraite, c'est tel que tel. T'sais. Tu vas avoir vécu bien un bout de temps, puis après ça, ben, tu vas payer quand même. Tu vas payer pour le fait que tu as vécu, tu n'as pas fait ta préparation, mettons. Si tu t'endettes et que tu n'as pas de retraite, c'est une chose, mais si, parce que tu veux vivre dans les plaisirs maintenant, ici et maintenant, le bonheur ici, tu vas passer à côté de ta vie de disciple de Jésus-Christ. Et Paul va dire, quand il parle des veuves, il dit « Refuse les jeunes veuves, car elles font la promesse de rester veuves, mais quand la volupté les détache de Christ, elles se détournent pour suivre Satan. » Paul, il dit ça à Timothée. Qu'est-ce que ça veut dire, suivre Satan? Satan, il dit, hey, suis-moi, je vais détruire ta vie, tu sais. Non, il leur promet une vie heureuse maintenant. Une vie épanouie de, hey, vite, je vais être tout seul, je vais tomber tout seul, il ne faut pas que je tombe tout seul, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il ne faut pas que je finisse tout seul. Tiens, check le beau mec, tu sais. Il n'est pas chrétien, pas grave. Et puis, ce qu'il faut, c'est que je sois heureux maintenant. Et donc, ils se détachent de Christ et suivent Satan. Les chrétiens de Galate, c'est exactement ce qu'ils avaient fait. Ils avaient arrêté de courir parce qu'ils ne voulaient pas être persécutés comme un chrétien. Ah, t'es-tu en train de me dire que si je me fais circoncire, puis je vis une petite vie juive, je ne serai pas persécuté comme tous les autres chrétiens? Tu vois comment ils se font ramasser, eux autres? Oui, c'est exactement. Tu te fais circoncire, puis de problème. Mais il dit, vous couriez bien, vous avez arrêté de courir. Puis le secret de la course, et c'est la fin là, de mon message, le secret de la course, c'est de garder les yeux sur Jésus. Paul, s'il court encore après 14 ans, c'est qu'il y a un secret, c'est qu'il n'a jamais abandonné le message de la grâce. Dans 2 Corinthiens 12, il y a un démon qui est toujours en train de le piquer. Puis c'est écrit, et j'ai demandé à Dieu, enlève-les, enlève. Ah, oh, je t'année, Seigneur, je t'année qu'il soit toujours là, ce démon-là, il ne me lâche pas, tu sais, je t'année. Et Dieu lui a répondu, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Paul, il comprenait que oui, il y a des épreuves, oui, il y a des difficultés, oui, ils ne sont pas toujours enlevés, mais avec les difficultés vient aussi la grâce de Dieu, c'est-à-dire Dieu dit, je te donne la force de tolérer qu'est-ce que tu vis, continue. Paul, il a donc continué la course chrétienne parce qu'il disait, sais-tu quoi? La vie n'est pas facile. Il dit qu'il a été lapidé, il a été laissé pour mort, il a été en naufrage, il a été parmi les faux frères, mais il dit qu'il a appris à être satisfait avec Dieu. Il a appris à vivre dans le contentement. Il n'a pas perdu la grâce de Dieu. Il n'a pas perdu le message de la grâce de Dieu. Je finis avec cette pensée-là. Il cite dans 3.1 qu'on va étudier plus tard, mais quand même, c'est intéressant. Il dit, « Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? » Êtes-vous tellement dépourvu de sens, après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Il leur rappelle que quand on leur a prêché qu'est-ce que Jésus était et ce qu'il avait fait pour eux, ça leur avait rempli, il avait été rempli de l'Esprit de cette manière-là. Et il leur rappelle que les miracles que Dieu fait continuellement au milieu d'eux, ce n'est pas à cause qu'ils font des choses pour plaire à Dieu, mais c'est parce qu'ils croient à la prédication de la foi. Donc, le secret d'avoir une course chrétienne qui continue après... Ça fait combien de temps que tu es chrétien? Moi, ça fait 30 ans à peu près. Il y en a que ça fait 2 ans, il y en a que ça fait 10 ans. Paul, ça faisait 14 ou 17 ans. La parole. La parole. Vous continuez à écouter la parole avec foi. Vous écoutez la prédication. Vous lisez votre Bible. Ça nourrit votre foi. Et c'est ce qui fait qu'on peut avoir le secret d'une course. Amen. Juliane, j'aimerais ça que tu me prépares le chant. Mon secours est en toi. Là, c'était un des premiers chants qu'on a chanté aujourd'hui. Je trouve que je lève les yeux vers les hauts sommets. Là, tout ça. Je trouve que ça allait bien avec mon message. On va prier ensemble. Ah. Seigneur, je te remercie pour la grâce de Dieu, cette grâce-là qui me dit que Dieu veut me donner ce que je ne mérite pas. Quand je suis venu à toi, j'ai reconnu qu'à cause que j'étais pécheur, je ne pouvais pas aller au ciel. Et j'ai reçu ce que je ne méritais pas, le don de la vie éternelle. Peut-être qu'il y en a qui nous écoutent sur enregistrement ou que vous êtes ici, puis vous ne savez même pas si vous avez déjà même reçu ce cadeau-là. Peut-être que vous faites comme beaucoup d'entre nous. On pensait, hey, si je suis une bonne personne, si je ne fais pas trop de mal à personne, Dieu devrait m'accepter. Le problème, c'est que toi et moi, nous avons fait quelque chose qui mérite punition. Et que même si on a fait du bien, ça n'efface pas le mal qu'on a fait. Puis toi et moi, on a besoin d'être pardonnés. Et la seule manière d'être pardonné, ce n'est pas en faisant mieux. C'est en allant à la croix puis en acceptant que ce que j'ai fait de mal, c'est Christ, c'est Jésus-Christ qui est mort pour ça. C'est lui qui a été puni. Si tu acceptes que Jésus-Christ a payé la dette de ton péché, ton casier judiciaire est lavé. Et Dieu, en échange, te donne la vie éternelle, non parce que tu l'as mérité, mais parce que Jésus l'a mérité pour toi. La seule chose que tu as à faire, c'est d'accepter cette grâce-là, cette faveur-là que tu ne mérites pas, que je ne mérite pas. Et comment on fait ça? Bien, d'abord, il y a une reconnaissance du tort. Il faut que tu reconnaisses que tu n'es pas totalement pur, que tu as péché, que tu as besoin de pardon. Il faut que tu reconnaisses ce que Jésus-Christ a fait et que tu l'acceptes pour toi. Parce qu'il y a plein de monde qui vont être en enfer, pourtant Jésus est mort pour eux autres. C'est qu'ils n'ont pas accepté que la dette soit transférée. Et à cause de ça, ben, ils ont payé eux-mêmes la dette. Et cette dette-là, ben, c'est une dette éternelle envers un Dieu éternel. Et c'est la mort éternelle, c'est-à-dire l'enfer. Personne ne devrait aller là. Dieu veut que tous puissent être sauvés. mais c'est encore ton choix d'accepter si tu acceptes ce paiement-là. Si tu veux accepter ce paiement-là qui a été fait pour toi, encore, tu nous écoutes sur enregistrement ou tu es ici avec nous, répète cette prière avec nous. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur, que j'ai besoin d'être pardonné. J'ai entendu que tu es devenu homme dans la personne de Jésus, que tu as été puni pour moi et que tu es ressuscité des morts pour payer ma dette. Je l'accepte. Viens dans mon cœur et sauve-moi. Amen. Si tu as fait cette prière-là pour la première fois, Dieu t'appelle à le connaître. Il t'a donné la vie éternelle sans attache. Par contre, il t'a placé sur la terre pour le servir. Et c'est à toi de découvrir dans quoi, comment. Puis pour chacun d'entre nous, on s'est peut-être éloigné de cette croix-là, puis on se dit, je ne suis pas digne que Dieu m'aime. Bien, c'est de revenir à la croix puis dire, hey, Dieu me fait tenir devant lui dans une position de juste à cause de la croix. Merci Père pour ce bon temps qu'on a eu ce matin. Puis on va finir avec ce chant-là, qui, je pense, nous fait tourner les yeux vers toi. Amen.
Ce message vous a fait du bien? Vous en voulez plus? L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web sur lequel vous trouverez des messages en audio, vidéo et bien plus. Merci de nous honorer en les partageant sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web au www.grâceetvérité.org.